comme ça, je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8.
Bonjour et bonjour. Bienvenue.
Salut.
Salut.
Bonjour.
Dans cette émission de rentrée à dégenrer. Comme à notre habitude, on n'est pas en avance. C'est la 22e saison cette année. Comment va-t-on trouver des nouvelles choses à raconter ? Dans une période où l'oscillation entre espoir et constat d'horreur est quotidienne, est-ce qu'on se concentre sur ce qui change ou sur ce qui reste pareil ? En tout cas, on vous a laissé en juillet sur un cliffhanger intenable. On reprend. Le gouvernement ? Ah non. La fascisation ? Ah Et puis, une membre historique de notre équipe qui est partie. À dégenrer, on partage de ne pas avoir les mots et à la fois de vouloir les crier. Comment être un média indépendant, une émission de radio féministe, dans cette période historique bien dégueulasse ? Il n'y a pas encore de réponse, mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas diffuser. Alors pour la rentrée et face aux amalgames, on reprend un jeu bien connu, de gauche ou de droite ? Chacune présente a concocté une variation sur ce thème. Bonne écoute !
Et bonjour, alors comme d'habitude, j'ai pas réussi à faire ce que j'avais prévu, mais je suis là quand même. Du coup, gros suspense, la justice de gauche ou de droite ? Ouh, on ne sait pas quoi répondre. En tout cas, au départ, je voulais faire une chronique en partant de ce qu'aujourd'hui on appelle là que le procès des viols de Mazan est historique. Et en tout cas... Comment sommes-nous censés nous protéger ? On ne sait pas, le système de justice pénale échoue constamment et traumatise souvent davantage la minorité de survivants-survivantes de violences sexuelles, et en plus là, en l'occurrence, de violences intrafamiliales dans ce procès-là. Et pour les rares qui décident de porter plainte, parce que ce système, il protège plutôt les agresseurs que les victimes. Bizarrement, c'est comme dans la vie, finalement, dans une cour de justice. Il y a des dominants, il y a des agresseurs qui sont plus protégés que d'autres, il y a les puissants. Et pour autant, il faudrait quand même pas parler de viol tant que la justice ne l'a pas établi. Il faudrait la laisser faire son travail. Mais quand on voit c'est quoi le travail de la justice, ça fait un peu peur, puisque là, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui y suivent. Mais entre les avocats de la défense qui disent qu'il y a viol et viol, par exemple, et que le juge n'est même pas gêné par ça, en fait, un viol est défini pénalement par la loi. Du coup, c'est quand même assez terrible de voir la culture patriarcale au sein de ce truc qui fait que, en fait, on est plutôt sur des préjugés patriarcaux que sur un exercice de droit. Et alors même que là, on ne penserait même pas à justice transformatrice ou réparatrice, puisque je pense qu'on est plus la plupart ici à se positionner plutôt comme anticarcérale. Mais en tout cas, si on devait passer par la justice pénale, on voit bien que là, c'est loin d'être un exercice de justice. On ne sait pas bien c'est quoi. D'ailleurs, Gisèle Bellico l'a dit, elle comprend du coup pourquoi aussi peu de personnes vont dans ces arènes-là, puisqu'en fait, c'est carrément une deuxième agression. Le dispositif de justice, il repose sur l'illusion que tout le monde serait à égalité. Et bon, j'ai pas réussi à faire une vraie chronique dessus, mais je trouvais ça quand même, je voulais faire un petit, un petit clin d'œil, on me souffle très loin dans l'oreillette. Mais en tout cas, effectivement, ce n'est pas une réponse du tout satisfaisante à ces violences sexistes, sexuelles. Et encore plus, des fois, on peut être attaqué par loi de diffamation parce que ta. Et en tout cas, ça me semblait important de dire qu'il y avait une super émission, petite autopromotion, qui a été faite au printemps 2024 par mes camarades, là, donc, de Dégenrer, qui s'appelait « Viol versus justice », où il y a de ces questions-là qui sont posées, à savoir comment on fait pour se protéger pour mettre en place des choses quand on est féministe et pas attendre de ce système judiciaire qui est quand même très, très, comment dit-on, défaillant. Et du coup, je vous propose, parce que j'ai essayé de faire de l'actu en musique, un morceau de Petrol Girls, qui est un groupe anglais-autrichien. Là, ça, le morceau date de 2020 et c'est justement la question qui est posée au refrain. Hein, comment sommes-nous censés nous protéger dans ces violences sexuelles et sexistes? Et le morceau s'appelle « I believe them, solidarity, not silence ».
Et donc bonjour, bonsoir, chers auditeurs de Déranger, de Déjonrer, pardon, et Radio Rageuse. Ça commence pour le début de l'année. Vous l'aurez compris, c'est Bordy, votre drague activiste grenoblois certifié bio et local. Et enfin de retour, ainsi qu'Elo, une femme trans trop belle et trop vénère. Ouais, yeah. Je suis la même personne, vous avez capté. On va pas dire que cette rentrée 2024 a été toute rose au niveau actualité politique. On va pas se mentir, c'est la S, hein. By the way, Palestine vivra, Palestine vaincra et soutien au Liban. Pour notre première émission de cette nouvelle saison de Radio Féministe, nous avons décidé de prendre comme fil rouge une question de gauche ou de droite. Et en tant que meuf trans, je me suis alors demandé si être une femme, c'était de gauche ou de droite, politiquement parlant. Hein. Et qu'est-ce qu'être une femme de droite? Peut-on être féministe et de droite? Coucou Marguerite Stern et Dora Moutmout. Pour ça, j'ai décidé de prendre comme exemple le mouvement Tradwife. Tradwife, pour femmes traditionnelles, c'est un phénomène né il y a une dizaine d'années aux USA et qui a explosé sur les réseaux sociaux depuis la pandémie. Ce mode de vie qui prône un retour strict aux valeurs traditionnelles et ultra-conservatrices. Un respect des rôles ultra-genrés où l'homme travaille et subvient aux ressources financières tandis que la femme s'occupe des enfants et du foyer. Le pire cauchemar de Margaret Atwood, aka la Messie, elle avait déjà tout vu avant tout le monde, en écrivant Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, il y a bien des années. Tandis que les féministes intersectionnelles et leurs alliés se battent depuis de nombreuses années pour une indépendance et une égalité, d'autres glissent vers un mode de vie rétrograde, celui de nos grands-mères. Antiféministes, anti-avortement, anti-indépendance financière, elles acceptent volontairement de se soumettre à leur mari. Basée bien sûr sur des principes bibliques, cette mouvance n'a de cesse d'étonner et de dénoter. Nous semblons être au cœur d'un virage politique mondial majeur où nous promouvons un progressisme libéral décomplexé, fâche cassée d'une fascisation accrue de notre société, où l'attention est centrée sur la droite et sur l'extrême droite. CF la dernière entourloupe de Macron aux législatives ou comment bien se faire entuber. De droite, voire d'extrême droite, d'ultra-droite, la tradwife se soumet à son mari qui prendra les décisions finales concernant le foyer. La tradwife doit aussi être disponible sexuellement aux besoins de son mari, qui lui sera plus enclin à refuser s'il est fatigué. Le devoir conjugal est donc obligatoire, elle n'a pas le choix de consentir. Faisant de la tradwife un objet sexuel passif et arrangeant pour son mari, tout en normalisant le viol au sein d'un couple. Il me semblait important de souligner que la mouvance tradwife est un mode de vie qui s'adresse aussi aux riches. L'homme doit être assez bien payé pour subvenir aux besoins de toute la famille, souvent composée de nombreux enfants. Cette façon de vivre est épinglée comme un retour aux sources, un rapprochement avec la nature et une envie prononcée de ralentir son mode de vie. Hashtag slow life. Mais il ne l'est qu'en façade, surtout que la slow life glorifie le fait d'être pauvre et de faire avec les moyens du bord. La plupart des foyers de tradwife sont à l'aise financièrement et peuvent se le permettre. Et puis, qui garde les enfants pendant qu'elles sont en train de faire leur fromage maison? Une nanny? Un autre moyen d'asservissement féminin? Merci les copines? Non, le mari? Je crois pas. Les influenceuses tradwife font preuve d'une hypocrisie à toute épreuve alors qu'elles travaillent en faisant leurs vidéos et en touchant une contrepartie financière jusqu'à 20 000 euros par mois. Et pourtant, leurs réseaux sont gérés par leur mari ainsi que l'argent qu'elles perçoivent, faisant d'elles une main-d'œuvre gratuite du capitalisme, de l'hétéropatriarcat et une source de natalité pour la perpétuation de l'espèce en... Elles sont toutefois réellement pauvres, comme elles ne touchent pas cet argent et n'ont pas d'indépendance financière. Elles et leur mari sont des community managers en puissance, en maintenant une visibilité accrue sur les réseaux. Autant vous dire qu'en faisant des recherches pour cette chronique, j'ai reçu des suggestions de tradwives, d'antiféministes et de masculinistes à vomir sur mon feed. YouTube, Insta, TikTok, c'était n'importe quoi.
Berk.
Mais nous ne tomberons pas dans le panneau. Quand on veut nous faire croire qu'être une femme de droite, c'est progressiste. Une femme, ça doit être de gauche si elle veut espérer étendre vers une amélioration de ses droits et une égalité parfaite avec les autres êtres humains de la planète, aka les hommes, les vrais, les mecs, les bros, selon notre société binaire as fuck. Les femmes de droite, les féministes de droite, ne militent pas pour tout le droit de toutes les femmes. Exemple, bah, paye ta transphobie, quoi. Et sont les agents secrets du patriarcat. Tout ça pour dire qu'il y a encore du chemin à faire et à déconstruire pour que de jeunes femmes puissent avoir un regard bienveillant et affirmé porté sur elles-mêmes et ne pas choisir la facilité via des modes de vie antiféministes, capitalistes, archaïques, de droite. Du coup, je crois que je me suis un peu trop pris au jeu, les copaines. J'ai une petite question pour vous, si ça vous va. Est-ce que vous pensez que c'est de gauche ou de droite de mettre un doigt dans le cul? C'était la petite blague. Consenti, hein, on est d'accord. Hein. Ça serait pas un truc de PD et de féministe gauchiste pour déviriliser nos hommes? Non. Non, mais franchement, un petit doigt, ça fait pas de mal à personne. Hein. Juste du bien à la prostate, quoi. Enfin, après, rassure-toi, un petit doigt dans le cul, ça fait pas de toi un homme de gauche ni déconstruit. Donc bon, le pegging non plus. Ah merde, il n'y comprend plus rien.
Mais moi,
non
ça plus. Va pas suffire.
Ah, le monde est travers, franchement. Voilà, rageusement, tendrement, bordi. Et on passera ensuite à un montage que Ernest nous a laissé. On vous laisse écouter tout ça.
On vous laisse découvrir.
Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas.
Je retourne ma veste, toujours du bon côté.
Et voilà, j'ai réussi à introduire une chronique de Dégenré avec des extraits de Deux Connards. Mais je trouvais que la musique allait trop bien avec Macron qui arrive dans une seule et même phrase à se contredire en proposant d'arrêter de faire quelque chose qu'il ne ferait pas. Bon, remettons les choses au clair par rapport à l'industrie de l'armement française. Selon les rapports officiels, la France, en 2023, a exporté vers l'État génocidaire d'Israël 20 millions d'euros d'armes. Mais non, 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 selon le ministre des Armées Lecornu, ce n'est pas pour faire la guerre. En fait, c'est pour que l'État colonial israélien puisse réexporter les trucs qu'on lui a exportés vers la France. Bah ouais.
Mais par exemple, parfois, un des pays de réexport, c'est tout simplement nous. Je me suis aperçu de ça. Évidemment, Disclose et autres Mediapart, enfin, si ces gens étaient rigoureux, on s'en serait rendu compte hein, depuis le temps, et s'ils étaient honnêtes intellectuellement aussi, sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs, et jettent la suspicion en disant « mais au fond, c'est un moyen de déguiser un approvisionnement de Tsahal ». Bah non, puisque c'est nous le pays de réexport, on arrive à bien voir ce qu'on envoie puisqu'on récupère.
Ouais, bof, je suis moyen convaincu là. Surtout que quand on regarde les rapports officiels, il y a quand même un gros décalage entre ce qui est exporté et ce qui est réimporté. Donc, au risque d'être malhonnête, sorry not sorry, Sébastien Lecornu, mais ça marche pas ton argumentaire. Puis, soi-disant, tout ça, ça serait du matériel défensif. Mais comment tu vérifies qu'un système optique ou une puce électronique utilisée dans les drones ou les missiles ne servirait que pour de la défense? Et puis, bon... La dimension défensive n'est en rien extérieure au génocide en cours. On ne peut pas diviser la guerre en petits bouts. La colonisation israélienne est une stratégie globale. Et puis, depuis maintenant plus d'un an, l'armée d'occupation assure être en train de mener une opération de défense. Autant dire, cette distinction défensive-offensive, ça tient pas la route. Mais revenons aux armes françaises. Les 20 millions d'euros d'armes exportées vers l'État génocidaire israélien, ça prend pas en compte les biens à double usage, c'est-à-dire le matériel qui peut être utilisé aussi bien dans le civil que dans le militaire. Les biens à double usage exportés en 2023, ça représentait par exemple 154 millions d'euros de matériel électronique et 19 millions d'euros de capteurs et de lasers, entre autres. Mais la distinction civile et militaire est elle aussi assez floue. Par exemple, Caterpillar exporte des bulldozers qui servent à détruire les habitations palestiniennes, à enfouir et dissimuler les corps sous les décombres et à construire les équipements coloniaux, murs d'apartheid, postes de contrôle, colonies. Ces bulldozers sont blindés et peuvent être équipés de mitrailleuses ou de lance-grenades. Alors, attaque ou défense? Civile ou militaire? En exportant des armes et des composants, qu'ils soient civils ou militaires, en collaborant avec l'État colonial israélien, la France se rend complice du génocide en cours. Macron et Lecornu ne font ici que du retournage de veste, du retournage de tête. Les différents gouvernements français ont toujours défendu leurs intérêts impérialistes et coloniaux. Alors, est-ce que la pseudo-machine arrière de Macron est une manière de défendre les intérêts de la France au Liban? Parce que, sérieux, on sait bien que la France n'a jamais eu de scrupules à commettre des crimes de guerre ou à y collaborer pour ses intérêts. Plus généralement, l'État colonial français figure depuis des années parmi les premiers exportateurs d'armes et il a mené entre 120 et 250 opérations extérieures depuis la guerre froide. Ces chiffres varient beaucoup selon la manière de les classer. Oui, opération extérieure, c'est un joli mot pour dire guerre. Ces guerres, elles sont utilisées pour prouver l'efficacité des armes françaises. Ces armes sont testées en réel afin de les promouvoir par la suite et de les exporter. Par ailleurs, des armes ou des équipements sont aussi testés dans les territoires colonisés par la France, comme en Kanaky, en Guyane ou en Martinique. Et ça, dans une relative invisibilité. Et elles sont aussi testées au niveau des frontières européennes. Bref, quels que soient les gouvernements, les guerres coloniales et impérialistes ont servi les intérêts de la France et les intérêts capitalistes. Et il semblerait que l'impérialisme n'a pas de couleur politique, au vu des politiques néocoloniales et coloniales qui ont été menées ces dernières décennies. Faut-il rappeler la cellule de l'Élysée mise en place par Mitterrand ou le nombre de guerres impérialistes impulsées par Hollande ? Et le féminisme là-dedans ? Comment se situent les féministes vis-à-vis des guerres impérialistes ? Eh bien, malheureusement, il n'y a pas de réponse claire. D'une part parce qu'il y a le développement du fémonationalisme. Le fémonationalisme, c'est un concept qui a été développé par Sarah Harris, et il désigne l'utilisation des droits des femmes par les nationalistes pour renforcer leur campagne d'extrême droite. Mais c'est aussi la participation de certaines féministes à des campagnes racistes sous couvert de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dans la même veine, il y a l'homonationalisme, qui désigne des courants de pensée LGBTQI qui développent des argumentaires racistes et impérialistes. Autant dire, les argumentaires pour les droits des femmes et des personnes LGBTQI ne sont pas en reste dans les logiques guerrières et coloniales de la France, et ça depuis bien longtemps. Depuis les missions dites civilisatrices au XIXe siècle jusqu'aux guerres impérialistes contemporaines. La question des droits LGBTQIA+, est aussi utilisée dans des stratégies de pinkwashing, qui consistent à présenter un État comme particulièrement gay-friendly pour redorer son blason et cacher les crimes qu'il commet par ailleurs. L'État génocidaire d'Israël construit toute une stratégie marketing internationale autour des droits LGBT afin de se présenter comme moderne et de détourner le regard des atrocités qu'il commet. Le collectif palestinien Al-Quds définit le pinkwashing comme une violence coloniale et déclare « Reconnaître le pinkwashing comme une violence coloniale peut nous aider à comprendre comment Israël divise, opprime et efface les Palestiniens-Palestiniennes sur la base du genre et de la sexualité. » Alors autant dire, être féministe ne suffit pas en soi. Il est plus que nécessaire de se revendiquer d'un féminisme anticolonial, antiraciste et anticapitaliste, de lutter contre toutes les dominations, toutes les formes d'exploitation et toutes les organisations sociales qui permettent de les structurer et de les perpétuer.
c'était la fin du morceau Palestine de Molly Nilsson, qui est tiré de son dernier album Un American Activities de ce mois de juillet, où je vous le conseille, il y a plein de morceaux contre les oppressions, contre la montée du fascisme, très, voilà, c'est, là c'était Palestine. On est toujours avec Dégenré, notre émission de rentrée sur Radio Campus Grenoble 90.8 FM. Et là, dans la lignée de montage d'Ernest, merci, on va faire un mini agenda sur ces rendez-vous. Enfin, en tout cas, il y a quelques rendez-vous à Grenoble dont on peut vous parler en lien avec ces crimes de guerre et ces génocides. Du coup, là, le premier, c'est en ce moment même. Du coup, si vous marchez avec votre... smartphone, ou si vous roulez en voiture et que vous nous entendez, peut-être c'est pas tout à fait fini. En tout cas, il y avait une commémoration placée de Montarnaud à 18h, suivie d'un défilé vers la passerelle Saint-Laurent pour jeter des fleurs dans l'Isère, puisque c'est une commémoration du 17 octobre 1961. Puisque, pour rappel, il y avait eu une manifestation pour l'indépendance de l'Algérie à Paris, avec une énorme répression, avec des arrestations par milliers et des centaines de morts et de disparus d'Algériens, d'Algériennes. Du coup, voilà, pour rappel, le préfet de police, c'était Maurice Papon. Il y a plein d'autres responsables, mais quand même, ce nom dit quelque chose. Et en tout cas, c'était effectivement commémoration et appel, c'est-à-dire appel à exiger de l'État français qu'il reconnaisse officiellement sa responsabilité dans les massacres liés à la colonisation. Exiger la reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961 comme un crime d'État, réclamer les ouvertures des archives de la guerre d'Algérie et de la colonisation, sans restriction, sans exclusivité ni rien, et refuser évidemment tout discours, toute pratique xénophobe, raciste et colonialiste qui ne sont donc pas du passé, nous en avons la preuve tous les jours. Ça c'était aujourd'hui, et sinon en petit ou plus gros rendez-vous, il y a la veillée pour les martyrs donc de Palestine et du Liban qui est demain vendredi 18 à 20h, place Notre-Dame, et ça va être tous les vendredis. Et aussi, manifestation samedi, donc samedi 19 octobre à 14h30, place Victor Hugo, donc pour un Liban et une Palestine qui résistent ensemble. Et enfin encore, rassemblement mercredi, là aussi, ça sera tous les mercredis à 18h pour le Liban, place Victor Hugo. Voilà. Et maintenant, Alice, qu'est-ce que tu nous dis ?
Alors, moi, je ne savais pas trop sur quoi partir pour cette chronique. Les vacances, la créativité, les ballerines. Est-ce que c'est de gauche ou de droite ?
Une gauche, une droite, non ?
Et puis, je me suis dit que j'allais vous raconter mes, entre guillemets, vacances. Cet été, j'étais à Gentin, le plus gros festival de danse folk de France. 1000 personnes sur un parquet de musique où la musique live joue en continu, jour et nuit. 10 ateliers par jour pendant 15 jours. J'y ai dansé et surtout, avec une super équipe bénévole, animé un pôle VSS. Écoute, pédagogie et recadrage. L'accueil de cette initiative par le public a été clivé. Certains, certaines nous remerciaient chaleureusement, d'autres ne voyaient pas pourquoi on était là et nous l'exprimaient avec plus ou moins de virulence. Alors ce n'était pas des vacances, mais ça me tient à cœur d'être présente dans ces espaces. Peut-être parce que j'y vais depuis que je suis gamine, ou parce que c'est les moments festifs les plus intergénérationnels que je connaisse. En effet, comme dirait ma camarade de parquet Christine, le grand bal de l'Europe est représentatif de la population mondiale. Une femme sur deux a plus de 50 ans. Et puis, j'ai rarement vu autant de sourires au mètre carré, alors que danser, c'est un sport. Mais au fait, c'est quoi le bal folk ? C'est un concert de musique live où les personnes écoutent, mais surtout dansent ensemble. La transmission des pas se fait à l'oral, et la plupart du temps, les danseuses accueillent avec plaisir les personnes qui débutent. Il y a un répertoire de morceaux sur lequel on fait des pas assez similaires, un sens du bal pour pas trop se bugner, et un codage de rôle. Je dis folk, mais je pourrais aussi dire trad. Comme dans beaucoup de cultures niches, les mots racontent des choses différentes dont le néophyte se fout. Laissez-moi quand même préciser. Lorsqu'on emploie trad, on s'inscrit dans la lignée du collectage. Une pratique d'ethnomusicologie hors du cadre universitaire. Aller voir des vieux, bien plus souvent que des vieilles, dans des coins reculés pour récolter des pas, des airs, d'une culture paysanne et populaire, avant qu'ils se perdent. Ces morceaux sont ensuite joués dans des bals, en alternance avec des inventions modernes et des danses de salon du XIXe siècle. Leurs proportions varient d'un groupe à un autre. La musique sera dite folk ou trad en fonction des instruments utilisés, du respect des arrangements et des paroles. Là, je pourrais partir sur les paroles qui racontent les misères des filles-mères, ou l'obsession, pour certains, de ranger les danseuses en fonction de leur genre présumé. Mais j'ai envie d'aller ailleurs. Le répertoire folk est un patchwork de morceaux issus de la culture, de cultures pour la plupart européennes, saupoudrés de quelques danses d'Amérique latine et d'Israël, parce que pourquoi pas. Alors le bal folk, de gauche ou de droite? Est-ce que la promotion des danses du territoire fabrique un imaginaire commun, basé sur des valeurs d'antan? Est-ce que la musique trad est une version concert du Puy du Fou? Peut-on trouver un moyen d'être attaché à un territoire sans pour autant le mettre sous cloche pour créer un roman international? Les danses traditionnelles sont présentes partout et leur transmission est un enjeu de migration des personnes et des savoirs. Elles ont une histoire riche et autant de variations que de territoire. En France, le milieu folk est plutôt sur le versant citoyen du monde, tout en éludant régulièrement la question de quel savoir populaire est mis en avant et par qui. Oui, parce que donner des cours, c'est aussi un business. Dans d'autres pays, l'extrême droite est bien plus présente. Citons l'Autriche et l'Allemagne, où la secte Anastasia, que j'ai découvert cet été, utilise les danses folk pour recruter, avec son compo gagnant, patriarcat, antisémitisme, LGBT-phobie et ésotérisme. Cette secte russe promeut un retour à la vie plus simple, en communauté. À Djenétine, 5 sœurs étaient présentes, de très jeunes femmes facilement identifiables une fois qu'on connaissait leur existence, avec leurs chignons impeccables, jupes fleuries et bustiers, surmontées d'un collier similaire autour du cou. Ne dansant que les danses collectives, car les danses de couple, c'est qu'après le mariage, encore plus strictes que les chrétiens, qui demandent juste, pour une danse à deux, de l'espace pour Jésus entre les corps. La piste de danse est un échiquier politique. Alors je ne sais pas dire si c'est de gauche ou de droite. Mais je peux dire que ces espaces sont bien trop précieux pour les laisser au réac. Qu'une des manières de ne pas le laisser de terrain est de le prendre, d'en faire un espace vivant, accueillant et politisé. Tout en continuant à voir qu'il est structurellement un milieu majoritairement blanc, hétéro et de classe moyenne. Même si je suis rentrée complètement explosée, je suis fière d'avoir participé à diffuser une culture du consentement, d'avoir rencontré d'autres féministes et queers qui partagent et participent à faire bouger les lignes. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous recommande chaudement le blog de Créactiviste.
Merci.
Merci, Alice.
Alors, une petite question pratique, parce qu'on avait mis que Caro, tu faisais ta chronique après, mais est-ce qu'on ne mettrait pas une musique entre vous deux, quand même?
Une musique.
Une musique. Sinon, je me dis que ça fait quand même beaucoup pour les auditeuristes que nous, à qui nous pensons, quand même. Alors,
tout à fait.
Et comme ça, on aura plus de cerveau. Et là, ben, le morceau qu'on vous proposerait juste après...
Ce ne sera pas du folk.
Ça ne sera pas du folk. C'est vrai que malheureusement, j'aurais pu chercher ça. Mais non, mais alors, c'est un peu... C'est des artistes que j'aime beaucoup, que je viens de découvrir, mais c'est aussi parce que je trouvais qu'il y avait une blague à l'intérieur du titre du morceau pour notre fil rouge gauche-droite, parce que le nom du morceau s'appelle Everything That Was Right, avec mon super accent. Du coup, bon, avec le double sens anglais que right c'est juste, mais quand même, vous voyez. Bon, bref, Everything That Was Right is now wrong.
Wrong.
Merci, je suis très nulle. Et donc de l'artiste TJ Felix, qui est une personne, donc ça se passe à Vancouver, c'est au Canada, là c'est sorti cet été, personne autochtone qui lutte anticoloniale, qui fait des choses très très intéressantes, multi-artiste, et qui là, en plus dans cette bande, la personne qui est à la batterie, c'est Felonious Parker, que je viens de découvrir aussi, une rappeuse trans super, qu'une des descriptions que je trouve magnifique, c'était Like a Rainbow in the Dark, et c'est vrai. Bref, je vous laisse découvrir ce morceau-là en tout cas, TJ Felix. Vas-y, hello, dis le titre.
Everything that was right. That was right and now is wrong.
Yeah, merci.
Pas de soucis. We'll be right back.
vous êtes toujours sur Dégenrer, l'émission féministe pour déranger sur le 90.8 FM Radio Campus Grenoble. Et ceci est notre émission de rentrée que nous intitulons « Et alors, est-ce que c'est de gauche ou c'est de droite ?» Et moi, celle que j'ai voulu faire, c'est « Et alors, la santé mentale, de gauche ou de droite ?» Parce que, eh ben, la semaine dernière, figurez-vous, que j'ai participé à une formation premier secours en santé mentale animée par l'UNAFAM avec une copine dans la maison des habitantes du quartier.
Tu peux rappeler c'est quoi l'UNAFAM ?
Eh ben, ça va venir, mais je vais commencer par dire ce que c'est qu'une formation de premier secours en santé mentale.
Super.
Alors, c'est quoi ? Ben, c'est un programme de formalisation labellisé qui a été développé dans les années 2000 en Australie par un couple, en fait, une personne enseignante dépressive devenue ensuite thérapeute et son mari chercheur en santé mentale, qui ont donc développé cette formation pour donner aux personnes lambda des outils pour comprendre et agir quand ils voient une proche ou même une personne moins proche souffrir de troubles mentaux. Et ces troubles mentaux, donc, il les classifie en 4 catégories, les troubles dépressifs, anxieux, psychotiques et les troubles d'usage des substances. Du coup, ça, c'est la version australienne. Mais en 2018, il y a eu 3 structures qui ont voulu importer ce système de formation en France. Il s'agit de l'UNAFAM, dont on va en parler, mais plus tard, patience.
Quel suspense !
De la Fédération Santé Mentale France et d'un troisième organisme qui est l'INFIP. L'INFIP, c'est quoi ? C'est une SCOP qui produit et qui anime des formations plutôt à l'usage des professionnels de la santé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont obtenu en 2018 le droit d'exploiter la formation australienne via l'association PPSM France qu'ils ont montée pour l'occasion. Et ce n'est pas PPSM France en elle-même qui délivre les formations. PPSM France, c'est la structure qui forme les formatrices. Pour devenir formatrice, tu payes 1 500 € à PPSM France. Et tu, contre cet argent, tu vas avoir une formation pendant 5 jours qui t'apprendra à animer la formation, cette fois-ci sous l'étiquette de ta structure à toi. Donc nous, on a fait PPSM par l'UNAFAM, mais le mouvement pour le planning familial pourrait par exemple aussi animer PPSM en tant que planning familial. Donc c'est PPSM qui fournit le support de formation, le petit diaporama qu'on nous a montré, le petit livre de cours et le petit cahier d'activité, mais c'est la structure animatrice qui décide de comment on fait l'animation avec ce support. Et donc nous, on a eu PPSM par 2 personnes de l'UNAFAM. Machin et Machinette, notre binôme de choc d'animation. Et est-ce qu'on a été satisfaite de l'intervention de ces gens-là ? Ben franchement pas. Déjà, ça se voyait qu'ils n'avaient pas l'habitude de s'adresser à des gens du maison de quartier. C'était la mairie de Saint-Martin-d'Hères qui avait fait venir ces gens. Et mais ce qui prenait de haut, ce qui nous prenait de haut... Payton classisme. Ça avait mal commencé dès la première diapositive où il nous expliquait que les troubles mentaux, il y avait des causes psychologiques, il y avait des causes sociales et il y avait des causes biologiques. Faites-vous les différences entre ces causes. Le chômage, qu'est-ce que c'est ?
Social.
Et être sans-abri, c'est quoi ?
Social.
Et être immigré, c'est quoi ?
Social.
Et être harcelé au travail, c'est quoi ?
Social.
Non, mais c'est psychologique. Non, et être un militaire qui a vu des horreurs, c'est psychologique ou social ?
Social.
Mais non, c'est psychologique. Et ils n'étaient pas foutus d'expliquer comment ils classaient social et psychologique. Et quand on leur a fait remarquer, plus ma pote que moi, honnêtement, mais en fait, ce que vous appelez cassos, c'est... Voilà, c'est ça, pour vous, social égale cassos, n'est-ce pas ? C'était nous qui étions discriminantes.
Ah ouais, un petit classique du renversionnisme.
Et surtout, ces personnes qui n'ont pas arrêté d'enchaîner bêtise sur bêtise, qui ne maîtrisaient pas leur sujet, qui disaient des choses, on pouvait, en tapant 5 minutes sur Internet, voir qu'ils disaient des conneries. L'électroconvulsiothérapie, non, contrairement à ce qu'ils disent, c'est pas quelque chose de récent, ça s'appelle les électrochocs, ça existe depuis les années 40. Non, contrairement à ce qu'ils disent, crack, ce n'est pas de l'héroïne coupée avec du sable qui rend accro dès la première prise.
Incompétent, gégeant, discriminant, ça a l'air super cette formation.
Et la cerise sur le gâteau. Notre binôme de choc nous a dit que l'UNAFAM frétillait parce que notre premier ministre Barnier, eh ben, il a décidé de faire de la santé mentale grande cause nationale 2025. Parce que sa maman décédée, c'était une présidente d'une délégation régionale de l'UNAFAM. Même qu'elle a un centre d'accueil à son nom. Alors, on va y venir. C'est quoi le UNAFAM ?
T'as vu, t'as attendu poche, c'est bien.
Je trépignais, ouais, moi.
Donc, c'est une association qui existe depuis 1963 et qui s'appelait, au départ, Union des familles de malades mentaux et de leurs associations. Et puis ensuite, elles se sont renommées Union nationale des familles et amis des personnes malades et ou handicapées psychiques. Et elles disent lutter fièrement contre la stigmatisation en insistant pour qu'on ne parle plus de malades, de personnes handicapées, de handipsychiques, mais de personnes malades, de personnes handicapées. Vous comprenez, il ne faut pas réduire ces personnes à leurs troubles. Et avec leur équivalent québécois, le FFAPAMM, ils ont écrit une brochure à l'intention des proches de ces personnes malades ou handicapées psychiques qui s'appelle « L'indispensable ». Et dans cette brochure, qu'est-ce qu'ils écrivent ? Que les proches devraient se considérer comme des clients du système de santé, c'est-à-dire avoir accès à des services professionnels pour soigner leur propre santé mentale. Bon, je suis pas contre, hein. Mais également, que les proches devraient aussi être accompagnateurs et impliqués dans le parcours de soins de leurs proches, et que par cela, ils devraient pouvoir parler à l'équipe traitante de leurs proches, pour les informer de rétablissement de leurs proches et pour donner des infos sur comment leurs proches étaient avant. Et ils écrivent même que la confidentialité, c'est un obstacle pour obtenir de l'information sur leurs proches et que c'est pas pratique du tout la confidentialité. Tout comme le secret professionnel qui empêche les soignants de leur balancer le dossier quand ils le demandent. Et troisième obstacle... Le refus du proche, également un obstacle, mais malheureusement, il faut respecter sa décision, malgré la peine et les inconvénients que cela engendre, je cite.
Nous avons eu des petits guillemets visuellement.
Ils écrivent dans leur liste de mythes que ce sont les personnes atteintes qui ont besoin d'aide et non pas leur famille, que ça, ce serait un mythe, parce que les familles ont besoin d'outils pour actualiser leur potentiel, je cite. Et on leur apprend dans la brochure à vivre avec la situation. Et comment surmonter les rêves qui s'effondrent au début de l'âge adulte de leurs proches et de vivre avec leur chagrin relié aux rêves et à la fierté qu'elles avaient avant pour leurs proches et qu'elles ne peuvent plus avoir maintenant. Du coup, voilà qui c'est l'humain d'une femme, une association de proches. Mais ensuite, comme ça m'a énervé ce torchon, je suis allée plus loin sur Internet et j'ai trouvé un blog qui s'appelle blogschizo.wordpress.com et qui a écrit une parodie de cette brochure L'Indispensable de l'UNAFAM, dont on va vous lire un petit extrait.
Je prête ma voix littéralement au pied levé.
Littéralement, littéralement. On confirme.
Depuis que votre proche a adhéré à l'UNAFAM, vous êtes désemparé. Comment lui parler ? Que vont dire les voisins ? Comment lui faire entendre raison ? Comment comprendre son comportement ? Il faut savoir que ça arrive à beaucoup d'entre nous. C'est très difficile à vivre, mais des solutions existent. D'abord, sachez qu'il ne faut pas le contredire. Il s'agira de lui parler lentement, avec des phrases courtes et simples. Il sera difficile, par exemple, de lui faire comprendre que tout ce que vous faites n'est pas thérapeutique, que du rugby n'est que du rugby et pas un remède rugby, par exemple. Que vous pouvez continuer à travailler, à penser, à aimer, à prendre des décisions. S'il refuse de vous écouter et se fâche, surtout ne haussez pas le ton. Restez à une longueur de bras et ne vous réfugiez pas dans un coin. Ça pourrait devenir dangereux. S'il ne veut pas comprendre que ce que vous dites à votre psychiatre est privé et confidentiel, un rappel à la loi peut toujours se faire. Avec calme, bien sûr. Il faut lui faire comprendre l'importance de respecter la loi pour vivre en démocratie et pour vivre en bonne intelligence avec ses proches atteints de troubles mentaux. avec, avec un proche adhérent de l'UNAFAM, vous ferez face à l'infantilisation, au catastrophisme, aux préjugés, au tout thérapeutique. Surtout, ne rentrez pas dans le jeu de votre interlocuteur. Le mieux à faire est encore d'appeler des amis atteints comme vous de troubles mentaux pour rire de ça un bon coup et revenir serein vers votre proche afin de lui demander des explications claires.
Voilà, c'était la parodie de la brochure de l'UNAFAM par Laurence Martin, alias Lana. Du coup, Laurence Martin, c'est une personne qui a été psychiatrisée dans les années 95. Avec son consentement, elle a parlé de ses troubles à son psychiatre qui l'a orientée vers l'hospitalisation. Elle a vécu une hospitalisation avec de la maltraitance institutionnelle et elle en a écrit un livre disponible sous forme de PDF de 102 pages sur son blog pour dénoncer le comportement des soignants en psychiatrie, leur infantilisation, le fait de retenir des informations, voire même le secret vis-à-vis des patients qu'elles sont supposées aider. Et la dernière chose à rajouter à propos de l'UNAFAM, après je me tais, c'est qu'elle écrit également dans sa brochure L'Indispensable que les proches devraient participer aux mécanismes de concertation en lien avec les décisions qui se prennent en matière d'organisation des services sur leur territoire. En gros, association de proches qui revendique son activité de lobbying politique. Et ça a l'air de marcher. Quand les politiques doivent réécrire les lois à propos des soins sans consentement, par exemple, c'est qui leur interlocuteur crédible ? C'est l'UNAFAM ? C'est qui reçoit les subventions ?
C'est l'UNAFAM !
Alors, la santé mentale, de gauche ou de droite ?
D'ultra-droite réactionnaire fascisante, comme tout, quoi, c'est ça, hein, dans ce monde des horreurs. Bon, bravo d'avoir réussi à sortir vivante.
Et puis d'avoir démêlé tout ça.
Moi, ce que je m'étais dit comme conclusion, c'est ça dépend de qui s'en occupe. Ça dépend de qui prend ça en charge, si c'est les personnes concernées, si c'est les proches, si c'est le système de soins professionnels. Que tous ces groupes n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Que ces gens-là de l'UNAFAM, d'un côté, on pourrait leur reprocher d'être dépolitisés quand ils font leur formation, et qu'ils ne prennent pas en compte les violences institutionnelles, ils ne prennent pas en compte les violences familiales, ils font comme si tout ça n'existait pas et qu'on était au bisounours, et t'as un problème, viens aux urgences avec moi, tu seras très bien pris en charge. Mais à leur fois, disons-le bien, c'est des lobbyistes, ils sont politiques. C'est eux qui sont entendus. Et franchement, nos brochures prix libre et do it yourself, elles n'ont rien à envier aux brochures en papier glacé de l'UNAFAM.
Merci Caro. Et je m'adresse entre autres à la technique aussi. On va sauter des petits tirets pour aller directement au dernier après que j'ai fini de parler.
Attends, moi je vais dire un truc.
Ah voilà.
Je pense que c'est super ce que tu as amené sur la question de la formation et sur nos dynamiques de formation interne et de diffusion à prix libre. C'est qu'en fait, bien souvent, on fantasme. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans des choses ? Moi, je ne sais pas ce qui t'a motivé à y aller, mais on a un imaginaire sur le fait que ça va être mieux, aussi parce qu'on a régulièrement un sentiment d'imposture. Et en fait, des fois, ça vaut le coup d'aller en formation, surtout si ça ne nous demande pas de la thune pour pouvoir capter qu'en fait, y a plein de choses qu'on sait déjà. Surtout face à des personnes qui disent qu'ils ne font pas de politique.
Du coup, je trouve que la transition est super parce que tout en vous proposant un dernier morceau, je voulais faire un petit... Je ne sais pas comment on dit, parce qu'en fait, finalement, ça parle de santé sociale et de santé publique. Et que justement, il y a plein de camarades qui bossent sur la santé communautaire et qui font du taf de pédagogie, qui écrivent et tout. Et je pense notamment au site de Cabriole, qui a un carnet de recherche de l'autodéfense sanitaire. Face au Covid-19 et du coup aussi à nos camarades de Rhône-Alpi qui font partie des Canards Masqués et qui n'arrêtent pas de sortir des articles pour alerter sur plein de choses. Et là, leur dernier article, c'est « Qui veut la peau de l'autodéfense sanitaire ?» À ta santé camarade, #6, c'est le sixième volet. Et je vous invite vraiment à aller lire parce que le déni collectif est assez dramatique quand même. Et là, il se passe des choses de ouf, notamment aux USA, il y a des procès en complotisme par rapport à l'autodéfense sanitaire. Enfin, on arrive à des endroits. Et effectivement, c'est comme il le disait à la fin, ça fait penser à ACT UP à l'époque où ils ont été moqués, insultés, priés de se policer avant que ça soit reconnu, qu'il y ait un vrai problème de santé publique, quoi. Tout ça pour vous dire que le morceau, et que, en tout cas, il y a des choses à faire, quoi, au-delà de masques et tout. Il y a une association ARA, là, l'Association pour la réduction des risques aéroportés, qui vulgarise et transmet les informations, qui prête et montre comment on peut fabriquer des purificateurs d'air. Enfin, il y a des choses à faire, en fait. Et là, le morceau, c'est Claire Fox and the Antisocial Justice Warriors. Ça, c'était le nom du groupe, pardon, punk meuf trans écossaise. Et le morceau, c'est I Don't Want Your Germs. Et je trouvais quand même que ça rentrait grave aussi dans notre fil rouge, puisque le début de la chanson, c'est Anti-vax to the left of me, Covid to the right, gauche ou droite. La musique.
À bientôt.
Merci pour la technique.
Salut, salut.
Men and being whoever cruising for a fight, shoulder to shoulder with Holocaust deniers, spoon-fed side by disinformation fires. Passive-aggressive not an hour thing, maliciously compliant, hanging by the chin, drowning in hellscape idiocracy. Rationale is hazy, thinking too lazy, diving into stupid, it's all goddamn crazy. I don't want your germs, I don't want your germs, I don't want your germs, I don't want to go dancing with the world. Shit up the barely lucid. Red pill, blue pill, it don't get much more stupid. Try to float above the baseless ideas, climate skeptics, contrails, new age fear, pants down, moss off, it's all a circle jerk. Setting fire to cell phone towns, yeah, how does that work? I don't want your germs, I don't want your germs, I don't want your germs, I don't wanna go out dancing with the words. I don't want your germs, I don't want your germs, I don't want your germs. Keeping real is now a full-time job. It's so hard to see how we got broken. I wanna live my life and avoid contamination. There's a half-life to my patience and it just expired. Avoiding everyone is why I'm constantly tired. I don't trust government one little bit, but do you have to be so willful as it all turns to shit? I don't want your germs, I don't want your germs, I don't want your germs, I don't wanna go dancing with the worms. I don't want your germs, I don't want your germs, I don't want your germs, I don't want to come.